Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Femme, mère, aumônier d'hôpital, coach, dame de compagnie, c'est Tombeline de la Portalière que je reçois aujourd'hui et toute cette semaine. Une femme à l'écoute des personnes, de leurs difficultés, de leurs peines, de leurs joies. Formée à l'écoute auprès des parents en difficulté, avec leurs enfants, leurs adolescents. Bonjour, Tombeline de la Portalière.
Bonjour.
Alors, beaucoup de casquettes en une, mais vous restez une femme. Oui. Et le cœur de ces premières minutes d'entretien et de cette série, puisque je vous garde jusqu'à la fin de la semaine, vous avez été pendant très très longtemps, allez, on va donner peut-être des dates, près de 40 ans, une femme dans une attitude, une posture de sauveuse.
Oui.
Alors que vous avez rencontré un jour dans votre parcours le sauveur, Jésus.
Oui. Tout à fait.
Alors, on peut peut-être travailler sur cette posture dans laquelle vous étiez. J'en parle au passé.
Alors, c'est vrai que j'ai mis du temps à découvrir que j'étais sauveuse. Parce que pendant très longtemps, mes yeux étaient fermés là-dessus. Je ne le voyais pas. Et c'est vraiment le fruit de... d'années aussi d'accompagnement psychologique, spirituel, et les épreuves de ma vie, et les joies aussi, mais qui m'ont montré ça. Et le fait d'être... En fait, je pense que je suis née sauveuse pour déjà être proche de mes frères et sœurs, dans ma posture peut-être de seconde de famille, je ne sais pas, j'ai pris en fait ce rôle de sauveuse, peut-être voilà, dû à mon histoire familiale, et ensuite ma foi aussi, le sens des responsabilités, peut-être d'une certaine loyauté, m'a projetée dans la vie et en me faisant vraiment sauveuse, c'est-à-dire que en me disant comment est-ce qu'avec les autres... En fait, c'est un fonctionnement qui fait que je vais me mettre... Quand les autres sont près de moi, je ne vais pas du tout écouter leurs besoins, mais je vais prendre en charge la personne sans écouter quel est son besoin. En fait, c'est ça la posture de sauveuse. Donc, dans mon histoire familiale, je pense que c'était complètement inconscient. Complètement inconscient. J'ai vraiment pris ça. Et donc, le fait d'avoir des enfants, déjà 4 enfants, ma vie a été remplie, mon mariage, mes enfants, et mes engagements aussi dans l'Église. Et ça s'est vraiment concrétisé aussi dans ma mission d'aumônier d'hôpital.
Alors, vous avez eu une mission, donc vous êtes originaire de Toulouse,
oui.
Vous avez vécu à Lyon et vous avez eu cette belle expérience. On peut parler que dans tout ce parcours de femme et ces plusieurs casquettes que j'ai présentées tout au début, vous avez eu ce parcours d'aumônier d'hôpital.
Oui.
Alors, ce statut, ce travail a été révélateur pour vous sur cette posture, vous parlez de posture de sauveuse,
oui.
Que vous avez au fond exercée pendant... c'est 10 ans.
Oui, parce qu'en fait, en fait, c'est un prêtre franciscain quand on habitait aux États-Unis, qui a été un peu révélateur de ça en me disant, mais Tombeline, pourquoi tu ne deviendrais pas aumônier d'hôpital? Voilà. Donc, je me suis formée aux États-Unis et en rentrant à Lyon, j'ai proposé mes services au diocèse de Lyon. Et en fait, moi qui aime beaucoup écouter, je me suis dit, cette écoute des personnes malades va aider les autres. Voilà. Donc je me suis formée en théologie, j'ai exercé donc comme aumônier, je pense que inconsciemment c'était aussi pour sûrement pour réparer des choses de mon histoire, en tous les cas, le fait d'être aumônier d'hôpital et de pouvoir faire du bien aux autres. Voilà. Alors j'ai énormément aimé. Parce que parce que je pense que pendant longtemps, j'ai été à ma place. Et puis, à un moment, et puis quand on est aumônier d'hôpital, c'est aussi rencontrer les personnes malades, être à leur écoute. Et je pense que c'est aussi là que petit à petit, je me suis rendu compte, grâce aux formations que j'ai pu avoir, grâce aux supervisions qu'il y avait dans les équipes d'aumônerie, grâce à mes collègues d'aumôniers, mes collègues aumôniers, j'ai pu aussi me rendre compte de ma posture. Ça a été très intéressant. Parce qu'ils me renvoyaient quelquefois des... Mais Omblin, par exemple, dans le cadre, je vais vous raconter le cadre. Quand on est aumônier d'hôpital, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut... on a des horaires. Hein, 9h, 17h. Et moi, au début, j'avais tendance à dépasser les horaires. Bah oui, parce que les gens, ils avaient besoin de moi. Donc, je ne vais pas m'arrêter à 5h. Parce qu'il y a encore plein de gens à écouter, plein de gens à aller voir. Et ça, c'était le début, c'était la fougue du début d'être aumônier. Et en fait, l'équipe et le cadre m'a énormément aidé à dire, mais attends, mais tu as, voilà, y a des horaires, parce que en fait, on s'épuise quand on est aumônier aussi, parce qu'on est à l'écoute de la maladie des gens, de la souffrance, des soignants, ce milieu de l'hôpital, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Et donc, le retour que me faisaient mes collègues, même s'il était difficile pour moi au départ, m'a beaucoup aidée. Et c'est petit à petit aussi que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout donner, que j'avais aussi besoin de recevoir. Alors, comment est-ce qu'on reçoit quand on est un sauveur? C'est ça qui est très dur. C'est accepter de recevoir. Parce qu'on peut se donner et s'épuiser.
Et vous avez connu, après 10 ans d'expérience en tant qu'aumônier d'hôpital, cet épuisement?
Oui.
Alors c'est un épuisement qui est physique et psychologique, hein. Ce sont les deux qui rencontrent.
Et ben moi j'ai eu quelque chose de très fort qui m'est arrivé, c'est que dans ma dernière année d'aumônier, j'avais une amie qui m'avait prêté un livre sur la première infirmière libérale en France après la guerre, et j'étais en train de lire ce livre dans le métro. C'était un matin, j'avais très bien dormi, j'avais très bien déjeuné, j'étais en forme. Et je lis un passage sur un enfant très malade. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un vertige. J'ai dû m'asseoir, j'ai failli tomber dans les pommes. Et là, je me suis dit, Omblin, ça va pas. Ton corps te dit des choses. Donc peut-être que, qu'est-ce qui se passe? Et justement, j'étais en train de je m'occupais d'un service d'enfants malades. Je voyais des choses très, très difficiles. J'étais aussi en service de réa. Cardio, neuro,
j'avais des services
très lourds, mais moi j'étais une sauveuse, donc il n'y a pas de problème, je peux vivre tout ça. Mais en fait mon corps il m'a dit l'inverse, il m'a dit là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai pu en parler à mon équipe en leur disant je crois qu'en fait je perds pied, j'y arrive plus, je ne peux plus aller visiter les enfants malades, c'est trop pour moi. Et ce qui est extraordinaire dans une équipe de monnerie, c'est que j'ai pu déléguer, en parler avec confiance, et c'est d'autres aumôniers qui ont pu y aller. Et j'ai réalisé, petit à petit, que je n'arrivais plus à aller visiter les personnes malades, j'arrivais plus à ouvrir la porte, je n'arrivais plus à écouter la souffrance des autres. Des personnes. Donc, ce que j'ai fait, ça m'a fait prendre conscience que j'étais arrivée au bout du processus. Et qu'en fait, la souffrance, je l'avais trop pris pour moi, et que peut-être que j'avais trop donné et pas assez reçu.
Permettez-moi, est-ce que c'était pour vous aussi une forme de mécanisme, une défense? De prendre cette posture naturelle pour vous depuis finalement tout votre parcours de sauveuse.
Je pense que inconsciemment oui, je m'en rendais pas compte, mais il y a eu un moment où en fait ce qui est extraordinaire, c'est que mon corps me l'a dit. C'est-à-dire que même si ma tête me disait pas ça, mon corps me l'a dit. Et quand j'ai été capable d'écouter mon corps et que lui me disait mais Omblin, c'est bon, tu peux plus, donc il faut faire quelque chose.
Et le cadre aussi d'une équipe.
Et le cadre d'une équipe bienveillante.
Qui a été très, très, très bienveillante. Au fond, révélateur pour être là au moment présent, au moment où vous arrivez à un épuisement physique.
C'est ça.
Le corps ne suit plus.
Le corps ne suit plus, et puis la joie n'est plus là.
C'est
le critère de joie, il est premier. C'est-à-dire que quand on va visiter des personnes malades, si on n'a plus la joie, mais c'est même plus la peine d'y aller, ça, parce qu'ils le ressentent.
C'est un des premiers signes pour ceux et celles qui vous découvrent, ben vous écoutent, ceux qui sont peut-être dans une posture aussi de sauveur, de sauveuse, une posture aussi de présence auprès de malades que l'on visite. Si cette joie n'est plus, c'est un des premiers signes de discernement, une petite alerte.
Oui, et puis c'est très important de s'en rendre compte, parce que on n'est pas là pour soi, on est là pour les autres. Donc la personne malade, si elle sent qu'en face d'elle, elle a un aumônier qui n'a plus la joie et l'envie d'être là, mais elle le ressent comme elle est malade, elle le ressent mais 10 fois plus fort que n'importe qui.
Mais oui, vous nous rappelez, la personne malade est une personne qui ressent
beaucoup,
beaucoup. Donc c'est le moment aussi où il faut savoir être cohérent, faire la vérité.
Faire la vérité, et c'est là que je me suis dit, Ombline, tu arrêtes, tu, c'est le moment de s'arrêter. Et c'était bien, c'était 10 ans de ta vie, ça a été très riche, j'ai beaucoup appris, mais aujourd'hui, c'est important que tu partes.
Voilà. Alors, merci pour aujourd'hui, Ombline de la Portalière, de cette porte que vous avez ouverte, cette porte du cœur aussi, pour nous livrer un peu ce début aussi d'expérience. Je vous propose de vous retrouver dans des clés pour vivre, et vous avez trouvé ces bonnes clés du trousseau pour savoir discerner et arrêter au bon moment. Car il faut savoir, et avoir peut-être aussi un certain courage, force intérieure, pour dire c'est fini pour toi. Il faut arrêter. Merci, et à demain, à la même heure.
À demain.